Des jeunes commencent à sortir dans la rue.
Bonsoir, on ferme les points de cisaillement.
Élise décide de bloquer le centre-ville et de canaliser les supporters. Une semaine auparavant, pour le match aller, la situation a dégénéré. Il y a eu 42 interpellations.
Donc ils montent actuellement le véhicule de la BSU.
Vous asseoir, l'audience est reprise.
Alors ça, je vous le fais pas dire. Vous avez été complètement idiot. Mais cette idiotie, messieurs, ça s'appelle une infraction pénale.
Vous cherchez quoi?
Vous cherchez
à rallonger votre détention?
C'est pourquoi ça? Pourquoi je vais la rallonger?
Quand vous rentrez dans la salle d'autopsie, que vous avez deux corps posés, et quand vous êtes effectivement une jeune femme, vous avez les vieux briscards du commissariat de la gendarmerie qui attendent qu'une chose, c'est que vous tourniez de l'œil.
Faites attention à vous. Le plus important, c'est que tout le monde revienne en bonne santé et qu'on n'ait pas de blessés à l'issue. Après, on verra ce qui se passera. Hein. Ok? Allez, bon courage à tout le monde.
Ouais, pour moi, c'est un policier, quoi. Une policière, je sais pas, ça sonne pas bien.
La capitaine, voilà. C'est mieux au féminin aussi.
Le commissaire, la commissaire. Je laisse faire, je...
La substitute, je trouve que c'est pas très beau, une substitute.
Si vous voulez prendre le féminin, on va vous dire, elle est féministe, vous prenez le, ah bah oui, mais elle préfère singer les hommes et rester dans une appellation plus masculine, alors choisissez.
Maison d'arrêt de Luynes. Ici, 730 détenus sont en attente de jugement ou purgent leur peine. Tous des hommes. Et c'est une femme, Elisabeth Bortolin, 43 ans, divorcée et mère de deux enfants, qui depuis 2 ans est chef de détention de cette prison. Tous les matins, le même rituel, se faire ouvrir 8 portes et 4 grilles pour atteindre son bureau.
Mon encore y traîne. Vous êtes affecté sur le C? Je crois pas.
Oui, mon nom C.
Hein?
Non, mais tranquille. Hein? J'avais 10 mois. Je suis arrivé des moments, c'est pas longtemps.
Oh oui, malheureusement. Il fait le sportif. Merci.
Et tous les matins, il faut gérer les incidents qui se sont déroulés pendant la nuit. Aujourd'hui, un détenu qui a été frappé par d'autres prisonniers.
On a un petit souci. Enfin, vous nous créez un petit souci, je crois.
Ah ouais?
Ah ouais. Quel est le problème? Dites-moi un peu.
Moi, j'étais bien, moi, où j'étais. Il s'est passé un petit incident et voilà, je voudrais pas changer.
La tête que vous avez avec un petit incident?
Ouais, mais c'est rien. Au premier, franchement, j'étais bien. C'est juste ce gars-là. Et après, ils sont venus à 3 dans la salle d'activité, 3 ou 4, et ils m'ont sauté dessus.
On n'est pas là pour vous laisser vous cogner sur la tronche. Il m'a regardé de travers, il m'a mal parlé, et bim, ça repart. Ça, on n'en veut pas. Donc, pour votre protection, pour le calme, le vôtre et celui avec qui vous avez eu souci, eh bien, voilà, il y a une mesure qui est prise. Aujourd'hui, on vous demande de changer de cellule.
Oui, mais juste, s'il vous plaît, ne me mettez pas au rez-de-chaussée, parce que, en fait, c'est pareil, ça va être même pire dans l'autre promenade.
Ça permet d'assainir une situation. Après, on revoit, on fait le point ensemble, dans peu de temps. Et on peut réajuster.
Merci.
Ça marche? Un à plus.
Allez, bonne journée.
De même.
Elisabeth dirige une équipe de 162 surveillants. Tous les jours, il faut gérer les arrivants. C'est un peu de l'hôtellerie. Il ne faut pas mélanger les primaires qui ne connaissent pas l'univers carcéral et les habitués.
Correct, calme, perdu, respectueux des personnels. C'est toi, Didier, qui l'a vu? Non, c'est toi.
Il faut tenir compte du caractère et de la dangerosité de chacun des nouveaux venus.
Fumeur, profession coiffeur, ça peut être intéressant, et il a 36 ans. Qui peut l'absorber en primaire? Tu prends ? Le suivant. Il a 40 ans. Il est primaire également. Réservé. Il est non-fumeur. Très important. Affectation sur le bâtiment C en attente de travail. Allez. Connu, reconnu, surconnu, 150e incarcération.
J'ai travaillé.
La seule chose, c'est qu'il faut qu'on les ait face Mirador.
À Luynes, ils sont 128 hommes et 34 femmes pour surveiller les détenus.
Alors ça fait quoi d'avoir un chef femme ?
Rien.
Pour travailler dans l'administration pénitentiaire, il faut avoir du caractère. Et les femmes qui y travaillent, elles ont autant de caractère que les hommes. Voilà. C'est une question de caractère. Enfin, moi, au début, c'est vrai que quand je les ai vues arriver, il y a une quinzaine d'années, j'en doutais. Et je pense que j'ai plus de doute.
Au début, les surveillants hommes étaient un petit peu réticents par rapport à votre arrivée.
Très.
Ah ouais, c'est
pour les trois quarts, on n'avait pas notre place en détention.
Ouais,
c'était plutôt à la cuisine à faire à manger pour le mari. C'était ça l'image de la femme en détention.
C'est en 1993 que les femmes sont autorisées à travailler dans les prisons pour hommes. Une nouveauté difficile à accepter pour certains anciens de la pénitentiaire.
Nous, en tant que nana, nous étions de la chair fraîche. Et si on avait le malheur d'être à plusieurs déjeuner entre nous, nous étions obligatoirement des lesbiennes. Et si on avait le malheur de boire un café avec un collègue en ayant refusé le café à un autre, nous ne pouvions être qu'une salope. Entendu.
On va se faire là sur le mouvement promenade un petit contrôle.
Les détenus frappent les portes de leurs cellules. C'est l'heure de la promenade.
Ne le dites pas trop fort.
Dans cette aile de la prison, les détenus sont jeunes et s'impatientent.
Ce qu'on fait par contre avec le détecteur, on fait lever un pied et un autre.
Un moment particulièrement tendu pour les surveillants. Elisabeth a décidé de faire un contrôle surprise.
On commence par le front de la coursive, les lumières, les télés sont éteintes.
La semaine dernière, ils ont découvert des téléphones portables cachés dans les chaussures.
Vous laissez la chaise en cellule. Hein. Ça va, vous êtes bien échauffé ?
Qui ?
Vous.
Quoi ?
Je sais pas, j'ai vu que votre porte allait tomber.
Moi ?
Ouais.
Ça vous porte, moi ? C'est mignon, moi ? C'est mignon, moi ?
Allez-y.
On a des gens de plus en plus difficiles en face de nous, des capsies de plus en plus, donc beaucoup plus de violence et complètement inattendu. Bonjour, gars qui nous a dit bonjour, bonjour surveillant tous les jours de façon bien. À un moment donné, le surveillant ouvre la porte, il se prend un pain et une... Voilà. On ne sait pas pourquoi, si on n'a pas une notion de solidarité, d'entraide, on est foutu, quoi.
Pardon ?
Vous regardez quoi ? Je fais un striptease gratuit ou quoi ?
Je regarde le temps que vous mettez alors que vous devriez être prêt.
Moi,
plus que prêt.
Depuis 8h30,
voilà.
Je suis là, j'attends, je voulais vous
la
envoyer
veille,
le
sein à la fin. La veille, ça se met.
La veille ?
Eh oui.
Ça va en 8h, c'est pas la veille.
Dépêchez-vous.
Vous
n'avez pas à sortir les chaises et cellules.
On reste debout alors.
Comment ?
On reste debout en activité.
Eh bien écoutez, si au fur et à mesure les chaises n'étaient pas détruites quand on les met en salle d'activité, ça irait mieux.
Ça fait 3 ans que je suis là, ça fait 3 ans que je suis dans ma chaise en activité. Bon.
Oui.
Il
n'y
a jamais eu de chaise en activité.
Et moi je vous dis qu'il y en a eu.
C'est terminé.
J'ai un rendez-vous à 9h30. Et il me faut aussi le papier.
Rendez-vous avec
qui ? C'est le médecin.
Eh bien, il reste en cellule et il partira de la cellule pour aller chez le médecin pour être à l'heure.
Comment ça ?
Dans 9h30, regardez, dans 10 minutes, vous avez rendez-vous. Allez, on y va.
Allez, on y va là.
Allez-y.
Pour ne pas attiser les tensions, Elisabeth a élaboré une méthode. Tout faire pour ne pas élever la voix, sans faire de concessions.
Pour en avoir rencontré dans la rue, disant, vous avez été chiante et pénible. Vous nous avez cassé les pieds. Parce qu'il fallait que la cellule soit aérée, qu'il n'y ait rien aux fenêtres. Et vous voyez, maintenant, je travaille, je me lève tous les matins, je fais comme ci, je fais comme ça. Alors, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'ils ont appris à la prison. Heureusement, si on peut leur donner un petit coup de pouce, tant mieux. Mais loin de moi ce genre de prétention. Mais ça leur permet de, à un moment donné de retilter.
Mais cette méthode est parfois difficile à appliquer pour certains détenus.
Oh, pour de bon, depuis tout à l'heure, j'attends. Vous avez dit quoi? Il reste en cellule jusqu'à 9h30. 9h30, c'est déjà passé. Il est 9h44.
Pour l'infirmerie?
Oui, pour aller voir le médecin.
On vient de finir le mouvement promenade.
Mouvement promenade, vous
d'accord, donc on vient
vous
de finir.
Vous n'êtes pas obligé d'être 400 000 là, pour faire la promenade.
Vous allez nous apprendre.
Je parle à une personne, je ne peux pas parler à deux.
Vous allez nous apprendre comment on fait?
Non, c'est votre d'accord. Travail. Alors,
regardez comment ça se passe. Maintenant, si vous arrivez en retard là-bas, il n'y aura pas de problème puisque c'est de notre fait.
Et
vous
de serez... votre faute plutôt.
Non, de notre fait. Et, c'est comme... et vous serez pris de tout, je ne suis pas sourd.
Non, mais c'est moi qui canard comme ça.
Je ne vous pousse pas, je suis en train de discuter, vous ne passez pas.
Non, mais tout à l'heure, je voulais poser mes cantines.
Allez à l'infirmerie. Les poubelles, vous aurez d'autres moments pour les jeter. Jeune homme, vous cherchez quoi là?
Je cherche rien du tout, je cherche à partir.
Vous cherchez quoi?
C'est déjà un manque d'épaule qui me fout le démon, déjà.
Vous cherchez quoi?
Je cherche rien
à allonger votre détention?
C'est pourquoi ça? Pourquoi je vais la rallonger?
De par votre attitude.
J'ai mon attitude, elle est normale.
On vous insulte? On vous parle mal?
Est-ce que moi, je vous ai insulté? Je vous ai
c'est
parlé
quoi,
mal?
C'est quoi le connard, là?
Connard?
Ouais.
Connard, je vais le dire à une femme. Ça se dit même pas à une femme, déjà d'une. Et de deux, je l'ai pas dit.
Alors, je vois pas.
Ce soir, petit dîner à la maison avec des collègues de la pénitentiaire.
Non, ça me botte ce que je fais.
Elisabeth est divorcée et ses parents viennent souvent lui donner un coup de main.
Et ça sera des betteraves rouges. Pourvu que ça plaise aussi.
Mais c'est toujours bon.
Quand les gens y reviennent, c'est que c'est pas mauvais.
Quand vous imaginez votre petite fille quand elle avait 3, 4, 5 ans, l'âge de vos petits-enfants aujourd'hui, oui. Est-ce que vous pensiez qu'un jour, elle serait dans cette profession, c'est-à-dire...
À l'âge de, disons, voire 12 ans, oui. Je me pensais ça parce qu'elle découpait tout ce qu'elle pouvait trouver sur les prisons. Parce qu'elle disait toujours, on a des choses à faire en prison, on peut aider. Et... quand elle m'a dit qu'elle allait dans la pénitentiaire, j'ai dit, c'est tout, c'est son choix.
C'est tout de même très dur comme métier.
Ouais.
Et surtout pour une femme.
Vous pensez que c'est pas un métier de femme?
Si, c'est un métier de femme, mais il faut avoir la volonté. Bon, je sais qu'Elisabeth, elle a pas mal de volonté, je comprends. Mais moi, je voyais plutôt un homme dans les prisons.
Pendant ces 15 ans de carrière, là, est-ce qu'elle a changé un peu?
Elle est endurcie, c'est tout. Et c'est le métier qui le veut, parce qu'elle en voit de toutes les couleurs, alors elle ne peut pas s'attendrir sur chaque chose, et puis il faut trouver une solution à tout, et voilà, pour elle, elle s'est blindée.
Je suis moins dans la compassion, machin. Si, je suis comme ça tout le temps, mais attends, j'en crève, quoi. J'en crève, hein. Il y a des audiences qui me font mal aux tripes, au boulot, mais après, tu peux pas prendre toute la misère. J'ai besoin, quelque part aussi, de cette protection pour pouvoir être bien avec mes mouflés, quoi. Et puis, c'est plus important. Sortez la cuisine, ça se voit.
Palais de justice de Bourg-en-Bresse. Marie-Christine Tarard est procureure de la République depuis 22 ans. Aujourd'hui, le tribunal se réunit pour une séance de correctionnel en comparution immédiate.
Il y a tous les symboles de la loi ici, hein. Bien entendu la République, puisqu'on rend la justice au nom du peuple français. Ensuite, la barre, où les gens s'expriment. Et puis le tribunal surélevé, la distance entre la barre et le tribunal. Et je me souviens d'un magistrat qui disait que cette distance-là C'était justement la distance de la vérité, la distance de la réflexion.
Mais il y a une originalité pour ce procès. À part le prévenu, il n'y a pas un seul homme.
On a aujourd'hui une composition totalement féminine, avec en plus une greffière et deux avocates, l'une en défense et l'autre comme partie civile. Voilà. Avec un prévenu masculin et deux victimes masculines. Voilà, c'est un peu particulier, on n'a pas fait exprès. Hein, mais,
ouais. Il y a un côté maman un peu, hein, on a l'impression, enfin,
si
toute proportion regardée, on se dit qu'il y a des garçons qui font des bêtises.
Voilà. Ouais, c'est vrai quand même, les femmes commettent moins d'actes de délinquance que les hommes, ça c'est une réalité.
Une femme procureure, une avocate de la défense, une avocate de la partie civile et la présidente et ses deux assesseurs. Et le jeune homme, mis en cause pour violence en réunion à l'encontre de deux frères.
Alors on va
une histoire d'homme, une bagarre qui a dégénéré après une course-poursuite en voiture. Conséquence des coups reçus, les deux victimes ont perdu connaissance.
Quelle justification vous pouvez quand même nous donner sur ce déchaînement de violence ?
On connaît tout au début, par rapport à sa voiture et la mienne, et on s'est supporté, ça insultait un peu. Je les ai presque pas frappés, en fait.
Presque pas frappés.
Bah, c'est qu'une fois qu'en fait, il y en a un qui a attrapé l'autre, bah, là, j'ai donné deux ou trois coups, en fait.
Des coups de quoi, vous avez donné ?
Des coups de poing.
Des coups de poing. Alors qu'ils étaient par terre, pourquoi est-ce que vous continuez de frapper ?
Bah, en fait, une fois qu'on était dans la bagarre, bah, on ne savait pas que ça allait terminer jusqu'à là. Quoi. On ne savait vraiment pas qu'ils étaient dans un état comme ça. Quoi.
Vous n'avez rien d'autre à ajouter ?
Maître Odino, je vous donne la parole pour les victimes.
Aujourd'hui, il y a des conséquences. Il a été détecté, notamment par le docteur, qu'il pourrait y avoir une commotion cérébrale et en tout cas un hématome, et qu'il faut des examens pour savoir s'il n'y a pas un danger vital pour. Voilà où on en est pour une histoire de ta voiture est plus puissante que la mienne. C'est enfantin, mais les conséquences sont gravissimes.
Je vous remercie.
Alors des faits de violence en réunion, effectivement, dont vous êtes saisis, des faits extrêmement graves, cela a été dit par la partie civile. On a véritablement des flaques de sang qui ont été constatées sur la chaussée, ce qui démontre la violence des coups qui ont été portés sur les victimes. Ce n'est pas une hypothèse d'école, monsieur, que de voir des gens comme vous un jour comparaître devant la cour d'assises, parce que les coups qui ont été portés avec une telle violence que finalement, eh bien, la personne en est décédée. Et après, c'est un peu court, que de venir à la barre et dire « je regrette, je ne l'ai pas fait exprès et je ne pensais pas que ça irait jusque-là ». Parce qu'on ne sait jamais, monsieur, ce que la violence peut entraîner, ce que la violence peut générer. Donc en répression des faits qui sont reprochés à monsieur, je requiers à son encontre une peine de 18 mois d'emprisonnement, dont vous pourrez assortir une partie d'un sursis de l'ordre de 10 mois. Ses victimes seront indemnisées et de la manière la plus rapide et la plus complète possible.
Très bien, je vous remercie. L'audience est suspendue. Le tribunal se retire pour délibérer.
Pendant le délibéré, petit regard féminin sur un délit typiquement masculin.
C'est pas quelqu'un qui aurait des tas de procédures en cours, c'est pas ça du tout. Hein. Non, mais je pense qu'il y a effectivement cette espèce de petite intolérance à.
C'est vrai. C'est typiquement.
Une de voiture de femme.
Non, pas du tout. En train de dire, oh, c'est une voiture. Encore que ça évolue. Hein. C'est-à-dire que dans les jeunes générations,
pour les places de parking.
Ça ne va pas au-delà finalement que.
On ne prend pas d'avis en lui disant, ta voiture, elle est beaucoup moins puissante que la mienne.
C'est-à-dire que nous, les voitures, on s'en fiche un peu quand même.
Le frère de l'accusé, lui, regrette que le tribunal soit exclusivement féminin.
Le tribunal doit représenter le peuple. Le peuple n'est pas fait que de femmes. Devrait être mixte. C'est vrai qu'il y a les lois. Après, une interprétation des lois qui n'est pas pareille par des hommes ou des femmes. Tout à l'heure, il y avait l'avocate qui a rigolé quand on a parlé des caractères des hommes un peu qui criment un peu en voiture. L'avocate a rigolé. Alors, ça montre bien qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes.
Vous pouvez vous asseoir, l'audience est reprise. Le tribunal vous reconnaît coupable des faits qui vous sont reprochés.
En répression, on vous condamne à la peine de 20 mois d'emprisonnement, dont 8 mois assortis d'un sursis avec une mise à l'épreuve pendant 2 années.
Le condamné part directement en prison et devra purger un an ferme.
Est-ce que les femmes sont quand même pas plus sévères ?
Je pense que c'est dans l'imaginaire des gens, ça. Peut-être qu'il y a, je sais pas, 50 ans, 60 ans, quand les premières collègues ont commencé peut-être à arriver dans ce milieu d'hommes, elles ont peut-être été obligées de jouer un peu, je sais pas moi, de se masculiniser un peu pour pouvoir se faire respecter, je sais pas.
Mais qu'on soit homme ou femme, c'est vrai qu'il faut éviter de se... Le but, oui, en tant que magistrat, de se projeter ou de s'identifier aux victimes et aux prévenus. C'est pour ça que la différence, elle s'estompe entre un homme et une femme magistrat.
10h30.
Ouais.
Une différence qui s'estompe. Et pourtant, donner aux femmes le permis de juger n'a pas toujours été une évidence.
Sauf exception, les femmes, d'une part, sont inaptes à exercer nos fonctions d'autorité, d'autre part, nuisent au prestige du corps judiciaire.
Ainsi s'exprimait, dans un rapport officiel, le substitut général de la Cour d'appel de Paris en 1955. 9 ans après que la première candidate soit autorisée à devenir magistrate. Très vite, les femmes utilisent cette possibilité d'appliquer des lois écrites par des hommes pour juger une majorité d'hommes. Elles sont déjà 123 en 1955, représentent 45% de la magistrature en 1992 et sont aujourd'hui majoritaires à exercer ces charges lourdes.
Les femmes ont été autorisées à rentrer dans la magistrature en 1946, c'est-à-dire juste après la guerre. Il y avait eu plusieurs tentatives auparavant pour les faire rentrer, mais bon, qui échouaient toujours parce que on disait que les femmes n'ayant pas les droits politiques ne pouvaient pas être juges, voilà. À partir du moment où des femmes ont été admises, il fallait surtout qu'elles se conforment à ce qu'on attendait d'elles. Il y a même une des femmes que j'ai interviewées, qui était rentrée justement dans la magistrature à la fin des années 40, et qui me disait qu'elle avait su qu'elle était intégrée dans la magistrature, enfin que ses collègues l'avaient vraiment acceptée, le jour où ils l'avaient appelée « mon vieux ».
Moi, quand j'ai commencé à travailler, il y avait encore des vieux gendarmes, donc certains avaient tendance à ne pas du tout écouter ce que je pouvais leur dire. Cette espèce de truc, ouais, c'est une femme, forcément, bon, elle n'a pas forcément tout bien compris, quoi. Bah, c'est vrai qu'il y a des choses que je ne comprenais pas forcément bien, parce que je n'étais pas chasseur, et quand on me racontait des affaires de chasse, je ne comprenais peut-être pas tout à fait comment ça s'était passé, mais il y a des tas d'hommes qui ne vont pas à la chasse et qui n'auraient pas plus compris que moi, quoi. Bon. Enfin, moi, j'ai souvenir dans mes premières années de fonction d'avoir été de permanence et d'avoir été appelée à me transporter sur le lieu d'un fait grave. Et donc d'être partie comme ça du tribunal avec une tenue vestimentaire qui n'était certainement pas adaptée pour l'endroit où j'allais, hein, dans une cour de ferme avec de la boue partout. Bon, bah, quand vous êtes avec des petits escarpins, un petit tailleur, etc. Bon, alors c'est vrai que les gendarmes avaient un petit sourire entendu en se moquant un peu du substitut qui était là avec ses petites chaussures et qui ne savait pas trop où mettre les pieds. Et ce qui m'a valu, quand j'ai quitté mon premier poste de substitut et que j'ai été nommée procureure, de recevoir comme cadeau de la part des gendarmes un treillis de gendarmerie. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on n'aurait pas fait à un homme, par exemple. Voilà. Donc, mais ça m'a servi parce que j'ai eu l'occasion de l'utiliser. Voilà.
Être femme complique-t-il ou facilite-t-il les auditions ?
Oui, là, après...
Ont-elles plus de compassion ? Ont-elles la main plus lourde ou même des réflexes sexistes ?
Priorité aux femmes, allez
Ce matin, Marie-Christine reçoit dans son bureau des prévenus qui ont reconnu les faits pour des délits mineurs. Au terme de l'audition, Madame le procureur pourra proposer une peine sans passer par la case correctionnelle. Premier cas de la matinée, une toxicomane connue des services de police. Elle s'est fait contrôler au volant en état d'ivresse.
Et vous aviez avec vous en plus une bouteille de whisky dans la voiture. Pour vous, tout allait bien ?
Ouais.
Mmh. Bah, t'as preuve que ça n'allait pas bien.
J'étais apte à conduire.
Vous étiez apte à conduire, madame ? Vous aviez presque 3 grammes d'alcool dans votre organisme. Ouais, ouais. Et ce matin, là, vous avez bu quelque chose avant de venir, là ?
Pas du tout, non.
Vous êtes sûre ?
Ah non, je bois. Non, non.
Je ne suis pas tout à fait certaine, hein, madame. Bon, alors, c'est fait.
l'infraction pénale hein, qui vous est reprochée. C'est une infraction pénale de conduire son véhicule avec de l'alcool dans son organisme.
Oui.
Vous le savez,
oui.
C'est un délit. C'est un délit qui est grave.
D'abord, j'ai eu 10 ans de toxicomanie, de stéréoïne. Je me soigne également. J'ai arrêté l'héroïne, donc là, je suis sous méthadone. Mais l'alcool a repris le dessus.
Et ne changez pas une dépendance par une autre. Donc que ce soit compliqué, que ce soit difficile, que ce soit douloureux, j'en ai conscience, hein, c'est sûr. Mais maintenant, il faut impérativement, madame, que vous preniez conscience que vous vous mettez en danger, que vous mettez en danger les autres et qu'il faut réagir.
On n'a que ça comme issue, on prend... Voilà.
Vous n'avez pas forcément que ça comme issue, madame, votre vie, elle n'est pas terminée.
Je suis en rouge et je fais la chance.
Vous avez la chance d'avoir... Vous avez un métier, vous avez du potentiel.
C'est bon, voilà, ce potentiel. On oublie tout. On oublie tout et on se réfugie. Bah, là, oui, il ne fallait peut-être pas, mais...
En tout état de cause, il n'est jamais trop tard pour réagir, madame. Je ne peux pas vous proposer une peine de principe parce que c'est très grave et je pense que la gravité de la sanction, elle doit vous permettre de comprendre à quel niveau de gravité était votre comportement. D'accord ? Alors moi, je vais vous proposer, donc à titre de peine, une peine de 5 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de 3 ans. Ça veut dire que cette peine d'emprisonnement, vous ne l'effectuez pas si pendant 3 ans, vous respectez les obligations qui sont mises à votre charge. Et parmi les obligations que je mets à votre charge, c'est l'obligation, bien entendu, de suivre et de poursuivre les soins que vous avez entrepris pour traiter votre problème de dépendance. Et moi, je vous propose une annulation de ce permis de conduire avec une interdiction de le représenter avant l'expiration d'un délai d'une année.
Je suis pas idiote, j'ai 28 ans, j'ai 10 ans de permis, j'ai jamais eu un accident. Bien sûr, j'en ai pris conscience. J'ai toujours respecté tout.
Une prévenue qui ne fait preuve d'aucune agressivité pour une peine qui sera facilement acceptée.
Voilà.
Pourtant, être procureur, c'est souvent être confronté à des personnes violentes.
Il y a des détenus qui arrivent ici qui sont relativement dangereux. Le fait d'être une femme, ça ne vous défavorise pas ?
Enfin, moi, j'ai un peu le sentiment que justement parce qu'ils sont face à une femme, ils ne vont pas être dans cet affrontement, dans l'agression, dans l'insulte, dans... Et que quelquefois on voit des procès-verbaux où on lit que les gens ont été extrêmement injurieux, enfin bon, on dit des choses. Et quand ils arrivent dans le bureau, bah, la plupart du temps, c'est bonjour madame. Enfin, si on sent que quelqu'un s'énerve, enfin vraiment s'énerve, à ce moment-là, moi j'arrête. Je dis à l'escorte, bon, bah, vous le redescendez. Monsieur, quand vous serez calmé, on recommencera. Mais on s'arrête là. Voilà.
Roubaix. La numéro 2 du commissariat central est ici une jeune maman de 30 ans.
Vous allez bien ? S'adapte ?
Commissaire depuis 2 ans, Élise Sir-Jacobs a fait Sciences Po et du droit pénal avant de réussir le concours.
Donc un petit t-shirt, on ne pourra pas avoir trop froid.
5 ans d'études pour avoir le droit d'enfiler la tenue réglementaire.
Donc le gros blouson... Blouson hiver. Ça peut apparaître comme un peu difforme pour une femme. Je veux bien le reconnaître. Donc ça, c'est la tenue de service général qui se porte donc toujours, dans tous les cas, avec le gilet pare-balles. Pour les chaussures, bah, c'est les type Rangers, quoi.
Super féminin. C'est
mais, ah ouais. Mais, ouais, mais c'est confortable.
Et pour les grands jours, il y a aussi la tenue de prestige.
Donc, alors là, il y a une distinction qui a été faite entre les hommes et les femmes. Deux distinctions. Donc la jupe longue, hein, qui arrive au genou, hein, et le chapeau, ce qu'on appelle le tricorne. Voilà. Alors, par contre, il y a les cheveux, effectivement, à chaque fois, il faut adapter les cheveux. Voilà, donc ça, c'est le tricorne, et qui est spécifique pour les femmes commissaires. Donc là, ouais, là, il y a une distinction.
Aujourd'hui, le commissariat est mobilisé pour une mission à risque. Élise a convoqué ses équipes pour le briefing.
Bonjour.
Une femme qui dirige 350 hommes, une image très éloignée du mythe qui fait de la police un métier d'homme.
Il faut se départir un peu de cette image de macho dans la police, quoi. On n'est plus, c'est pas les films des années 70 avec Belmondo, son blouson en cuir et le pétard à la ceinture. On est loin de ça. On a affaire à des pères et des mères de famille, hein. Donc les mon adjointe. Et c'est la première fois que les gars sont commandés par une femme. Et moi, je trouve qu'elle passe très bien, quoi.
Ouais, bonjour à tous, pour ceux que j'ai pas vus. Donc, pour ce soir, même dispositif exactement que lundi, idem Croix-Saint-Pierre.
Ce soir, l'équipe d'Algérie rencontre l'équipe d'Égypte en match retour pour la qualification à la Coupe du Monde de football. À l'issue de la rencontre, des incidents pourraient éclater.
Les arrêtés concernant les ventes à emporter, alcool et autres, les kebabs, les snacks ou autres magasins, donc valables à compter de 16h jusqu'à minuit. Quand vous voyez un établissement qui est concerné et qui n'a pas fait ce qu'il y avait à faire et qui n'a pas fermé, vous verbalisez, vous faites fermer et vous l'annoncez sur les ondes. Faites attention à vous, pas de blessés. Le plus important, c'est que tout le monde revienne en bonne santé et qu'on n'ait pas de blessés à l'issue. Après, on verra ce qui se passera. Ok ? Allez, bon courage à tout le monde.
Marie-Louise Fimeyer a connu l'époque où il n'était pas évident pour une femme de commander un service de police. Ce n'est que dans les années 70 que les femmes sont admises dans les concours de gardien de la paix, puis d'inspecteur et enfin de commissaire.
L'article, évidemment, vous voyez. Femmes, flics et patrons, c'est toujours le même problème. Est-ce qu'on peut être les trois à la fois ?
Après plus de 30 ans de service, à l'heure de la retraite, petit souvenir pour madame le commissaire divisionnaire.
En arrivant à l'école, c'était aux femmes de s'adapter à une profession qui était plutôt masculine, qu'on le veuille ou non. Donc ça traduit bien l'orientation et la perception des choses que l'on avait à l'époque. Puis on n'était pas nombreuses. Certains ne manquaient pas de penser qu'on était l'alibi éventuellement dans un métier d'homme.
Marie-Louise prend son premier poste de commissaire à Strasbourg en 1978. Elle a 25 ans et dirige une équipe exclusivement masculine.
Quand on arrive, on vous regarde. Il y a le bouche à oreille qui a fonctionné auparavant. Il y a des filles qui arrivent. Enfin, vous voyez bien qu'on vous regarde un peu quand même comme une bête curieuse. Parce que les femmes inspecteurs à cette époque, on les trouvait dans les brigades des mineurs, dans les services de délégation judiciaire, mais relativement peu dans des services, j'allais dire, extrêmement opérationnels ou très dynamiques. On a été naturellement prudente, probablement plus attentive, plus à l'écoute, plus observatrice et n'hésitant pas à prendre des conseils auprès de nos anciens.
Aujourd'hui, presque 25% des postes de commandement dans la police sont attribués à des femmes. Annie Requin, 45 ans, est déjà 24 ans de métier derrière elle.
Un quartier sensible, vous nous suivez ?
Commandant, elle est chef de l'unité sécurité et proximité de Sainte-Geneviève-des-Bois, en banlieue parisienne. Elle gère 86 policiers, dont 15 femmes. Et pour les patrouilles, elle veille à équilibrer les effectifs.
Selon les interventions, c'est bien qu'on ait une femme dans les brigades, deux, pourquoi pas, mais trois, ça deviendrait peut-être un peu critique dans le sens où on pourrait se retrouver un jour en équipage de femmes et ça, peut-être sur les interventions, c'est pas forcément souhaité, ne serait-ce que pour les rapports de force. Chauffeur, vous refaites un tour, vous refaites un tour. Allez, on avance, on va descendre tous.
Ce matin, opération chien renifleur dans une barre d'immeuble à la recherche de stupéfiants.
Allez, go!
Annie a grimpé tous les échelons de la hiérarchie un par un. D'abord simple gardien de la paix, elle a passé tous les concours internes pour devenir officier en 1994. Elle a tout connu, la police en tenue, la BAC et la brigade des mineurs. Flic, une histoire de passion.
Assistance aux personnes, rendre service, courir après les voleurs, en fait tout ça c'est quelque chose qui m'a passionné. C'est vrai qu'en 1986, on disait la police était métier d'homme. Aujourd'hui, on ne le dit plus. Mais pour moi, je pense être à ma place. Faites les pelouses un peu. Parce que c'est de là qu'ils jettent, en fait.
Vous êtes quoi, les étages ?
Vous faisiez quoi dans les étages?
Mais là, je sais pas, je voyais la pluie, j'attendais mon ami, après ça...
Et il habite où, l'ami?
Une vie de flic à temps plein, mais une vie privée à temps partiel. Annie a longtemps fait passer sa passion avant toute chose.
Je suis restée célibataire un certain temps pour dire, bon, j'avais une vie, mais je ne m'impliquais pas dans une vie familiale pour, et de couple pour pouvoir préparer mes concours et m'investir. Parce que à une époque de ma vie, c'était ma priorité. Peut-être le seul regret que j'ai, c'est peut-être la parenthèse qui a fait que je n'ai pas d'enfant aujourd'hui, mais bon, moi, je mets ça sur la vie.
Il y a des trous,
la première, elle a des trous.
C'est une touche féminine, ça, quand même.
Ah, c'est une touche maman.
C'est une touche maman, oui, on va dire c'est une touche maman.
Pas féminine, maman.
Maman,
qu'est-ce que tu nous as fait, Dani?
Oh, ah, des jeunes, je parle des jeunes filles. Elles sont un peu différentes des jeunes hommes quand elles sont...
Non, elles sont pareilles. Elles sont déterminées, elles ont le même dynamisme et la volonté que les gars.
C'est vrai que quand on arrive... Il faut s'imposer peut-être plus...
Il faut démontrer qu'on est capable.
Il
y a un moment d'intégration, mais une fois qu'on est intégré, c'est bon. Il y a des femmes sur le terrain qui... Excusez-moi, messieurs, mais qui tiennent plus la route que certains gars. Mais on n'est pas des garçons manqués, pas forcément. Non. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs?
Heureusement pour nous. Quand vous tombez sur des violences conjugales, mieux vaut une collègue féminine au contact d'une victime que nous. Elles vont avoir plus le contact et nous, on n'est pas à l'aise du tout.
Et alors, vous arrivez à garder votre féminité, enfin, visiblement?
Oui.
Ouais. Et c'est pas trop dur, ça?
Non.
Le costume, il est pas...
Non,
très saillant, on va dire.
Non. Bah, moi, c'est vraiment un costume, enfin, un uniforme que j'ai vraiment voulu mettre depuis vraiment mon enfance. Quoi. Moi, c'était vraiment... Je jouais pas à la poupée, je jouais au pistolet. Quoi. Moi, c'était vraiment... Donc, pour moi, c'était un rêve.
Allez, on contrôle, hein. On contrôle. C'est du systématique, hein.
Ben je crois qu'une femme doit en faire davantage. Il faut qu'elle en fasse plus qu'un homme. Il faut qu'elle fasse le petit quelque chose, qu'elle soit plus attentive, qu'elle soit plus à l'écoute des gens, qu'elle soit peut-être plus disponible. Parce qu'indiscutablement, il y a une comparaison qui se fait. Les collaborateurs vous compareront inévitablement à un commissaire de police homme.
Retour dans les rues de Roubaix. Le match Algérie-Égypte se termine dans un quart d'heure, tout est calme.
D'accord. Bon.
Élise, la jeune commissaire, est au téléphone avec son mari.
Oui, ils sont dans un des tiroirs, là. D'accord. Il faut lui remettre sa tétine si jamais.
Ce soir, il est seul pour s'occuper de leur bébé de 6 mois.
Parce que j'en ai tout après, là. Oui. Les interpelles, elles ont été faites aux alentours de 19h30 par un des mineurs qui avait un bonnet de Péruvien. À tout à l'heure. Oui, t'es encore là? Ouais, donc je te disais, le troisième tiroir en bas, voilà, c'est ça. Bon, allez, à tout à l'heure, ok? Bon appétit. D'accord, ok, ça marche. À tout à l'heure.
Bah, bravo, il faut tout gérer en même temps quand même. Hein.
Oui, oui.
C'est mal, hein?
Ouais, le bébé a du mal à s'endormir, c'est normal. Et puis voilà, puis de l'autre côté, c'était pour faire le point sur les interpellations.
Fin du match.
On arrive à proximité. Hein.
L'Algérie a gagné 3-2. Des jeunes commencent à sortir dans la rue.
Bonsoir, on ferme les points de cisaillement. On va fermer tout parce qu'il y a trop de véhicules qui se rapprochent.
Élise décide de bloquer le centre-ville et de canaliser les supporters. Une semaine auparavant, pour le match aller, la situation a dégénéré. Il y a eu 42 interpellations.
Faut garder un œil sur ceux qui se massent le visage.
Ouais.
Non, en fait, il y a eu une bouteille de bière là qui a été jetée sur le véhicule de la police municipale. Donc là, ils essaient de procéder à l'interpellation. Ils sont là, bravo. Donc interpellation de la personne qui a projeté au jet de pile sur les militaires de l'EGM. Donc ils montaient actuellement le véhicule de la BSU.
Petit débrief à l'adjoint au maire, inquiet.
Police 3.
Hein?
Police 3, délinquant 0. Ils ont tous été interpellés. Ça rigole pas. Hein.
Trois interpellations plus tard, les rues de Roubaix se vident. Au final, une soirée plutôt calme. Policières, procureurs ou surveillantes de prison, elles sont femmes de loi. Leur quotidien est d'appliquer et de faire respecter la loi.
Ouais, 31e chambre. C'est en dessous la 10e.
Catherine Charles, elle aussi, est une habituée des prétoires et des prisons. Mais de l'autre côté de la loi, celui des femmes, compagnes ou mères de détenus. Aujourd'hui, Catherine se rend au palais de justice de Paris.
Pardon, monsieur.
Elle connaît bien les lieux. Elle va assister à un nouveau procès de son fils Christophe. Cette fois, il est poursuivi pour avoir transmis en prison un rouleau de scotch au braqueur Antonio Ferrara. Un acte anodin qui, pour la justice, pourrait être le signe d'une évasion en préparation. Et un procès, c'est aussi l'occasion d'apercevoir son fils. Un fils qui ne serait libérable qu'en 2045. Condamné une première fois à 5 ans de prison en 1989 alors qu'il est encore mineur, Christophe Kider enchaîne des peines toujours plus lourdes. 6 ans en 1997 et surtout 30 ans pour meurtre et vol à main armée en 1999 pour un braquage de convoyeur de fonds qui a mal tourné. En 2001, il tente de s'évader de Fresnes avec un codétenu. À bord de l'hélicoptère, 3 complices, dont son frère Cyril. La belle échoue et un gardien est grièvement blessé. Christophe Kider est de nouveau condamné, cette fois à 15 ans de réclusion. Et puis, en février 2009, il remet ça. Profitant d'un parloir, il s'évade avec un complice de la prison de Moulins. Une cavale de 2 jours qui finit sous le feu de la police et une balle dans le poumon. Aujourd'hui, à 38 ans, Christophe Kider est l'un des 10 détenus les plus surveillés de France. Après 6 heures de procès, Catherine Charles ressort de la salle d'audience. Une nouvelle peine et quelques années en plus à attendre.
Deux ans et demi. Ça fait 30 plus 15 là, ça fait 45 plus 3, 48 plus 2,5, 45,5. Hein, on tombe dans des chiffres, encore une fois, de science-fiction.
Catherine, comme après chaque audience, est entourée par les membres de l'association ARPI, qu'elle a créée pour sortir les longues peines de l'oubli. Un quotidien chaotique, mais un cœur de mère indestructible, dans la crainte permanente d'une mauvaise nouvelle.
Bien sûr, c'est grave ce qu'il a fait. Le dernier parloir où j'avais été, il m'avait dit « Maman, elle était extraordinaire, la mère du jeune Humbert, tu sais, cette femme qui a euthanasié son fils. » Et moi, je comprenais pas, je disais « Mais... oui, bah, de toute façon, elle a abrégé ses souffrances, mais je sais pas, ça doit être terrible, je sais pas, moi je pourrais peut-être pas faire un truc comme ça. » Et j'ai saisi toute l'importance, il m'a dit, ben, c'est une mère extraordinaire. Imagine-toi un fils qui peut plus se gratter, qui peut plus rien faire et qui te demande, aide-moi à mourir, c'est le plus bel acte qui soit. Et tout ça, ça m'est revenu. Il est en train de me dire, s'il se passe quelque chose, il faudra que tu acceptes que je préfère mourir plutôt que tu me gardes vivant pour ton confort affectif ou moral.
La maison d'arrêt de Lyon-Corbas, où est emprisonné Christophe Kider, permet aux familles des détenus à l'isolement de leur apporter, à l'occasion des fêtes de Noël, un colis de 5 kilos. Alors Catherine, pour l'occasion, a mis les petits plats dans les grandes barquettes.
Ça, c'est...
Rillettes de saumon faites maison.
Faites maison, par Francine. Là, on a un émincé de bœuf...
Bœuf mariné.
Bœuf mariné.
Gambas sautée.
Et des acras de crabe. Et c'est vachement important qu'un mec en tôle, donc mon fils en l'occurrence, Christophe, il puisse aussi avoir un repas bien plus qu'amélioré, exceptionnel.
Oui.
Alors, ça, c'est la barquette de l'amitié.
L'amitié. Oui, c'est pas la boîte de Pandore, c'est que du bon là-dedans.
Voilà,
il n'y a pas les mots de la terre.
Voilà. Là, c'est, on a dit...
La fraternité.
La fraternité.
La tendresse.
La tendresse. La tendresse, bordel. Alors, c'est impératif en prison que les crevettes soient décortiquées. Et contrairement à la légende, on ne peut pas rentrer d'orange en prison, faut le savoir. Ni de clémentine, ni... d'accord. Donc, c'est vraiment un mythe. On peut ramener voilà, que des produits cellophanés, mis sous vide et transparents.
Parce que nous sommes
tout doit être transparent. Même une orange pourrait cacher une arme ou un explosif.
Dans les barquettes, ça perd de son cachet, forcément. Mais je suis particulièrement contente, là. Elle vient de le faire, je vais aller le mettre au frais et il l'aura demain. Donc c'est super.
8 heures du matin, direction Lyon pour le parloir de Noël. Tous les mois, Catherine fait la route pour voir son fils. 10 heures de voiture dans la journée pour 45 minutes à passer avec lui.
C'est Catherine, il est là, Cyril ? Tu me l'as pas, je vais souhaiter son anniversaire. Cyril, bon anniversaire.
Au bout du fil, son autre fils, Cyril.
Tu bosses pas ? Ouais.
Après avoir purgé une partie de sa peine pour la tentative d'évasion, il est aujourd'hui en liberté conditionnelle.
Voilà, je vais dire à Christophe que je t'ai eu, que tu l'embrasses. Je fais des kilomètres de route, Olivier m'amène, mais tu le fais en train, ça veut dire en train, la prison, elle n'est pas à côté de la gare, donc elle est excentrée à 30 ou 40 kilomètres, pas du tout pratique d'accès. Donc t'imagines les contraintes physiques, financières, morales, parce que ça te joue sur le moral. Tout ça, ça n'a qu'un but, quoi. C'est de déliter le lien familial.
Depuis plus de 15 ans que Christophe est en détention, sa mère lui a toujours rendu visite de prison en prison.
Si j'étais une petite chose faiblarde, peut-être il serait pas debout comme ça aussi. Hein. Ça oblige à se dépasser quand on a une maman qui se laisse pas abattre par la fatalité, par le fatalisme ambiant. Hop. Je veux des chaussures dans le coffre, je mets des chaussures. J'arrive pas comme une racaille de cité quand même.
C'est bien.
Non. Que je ressemble à une maman un peu.
Exceptionnellement, pour Noël, le parloir a duré 1h30.
Oh, c'est fatigant. Et ça faisait un moment là que je l'avais pas vu. Enfin, ouais, qu'on s'était pas vu. Il a des plaques sur le visage, l'isolement, quoi. Les nerfs. Il te parle, il est super calme et tout son corps bouge et en mouvement sans arrêt, c'est horrible. Je suis épuisé après chaque parloir. Ça fait 15 ans que ça dure. Il fait beaucoup de sport, tout ça, dans une salle, mais c'est pas suffisant. Il me disait, j'ai envie de rien. Pour parler de son état, il nous a dit c'est comme un athlète qui se prépare pour une compétition et une compétition qui n'aura jamais lieu puisque quand tu te mets en forme comme ça, c'est pour la vie en fait. Et il a certainement conscience qu'il n'y a pas de vie après ça. Que je suis une maman, donc même si ça va, j'encaisse, c'est toujours douloureux de sentir impuissante face à la souffrance de son enfant.
Retour à la prison de Luynes. Pour sa tournée du matin, une mauvaise nouvelle attend Elisabeth, la chef de détention. Pendant la nuit, un détenu a tenté de mettre fin à ses jours.
Ouais.
Les morts par suicide, 115 rien qu'en 2009, sont la hantise des surveillants.
Comment ils s'appellent ? À 4h du mat, les agents ont super bien réagi. Massage cardiaque, bouche à bouche, tout ça. Et du coup, bah, ils l'ont sauvé parce qu'il est reparti vivant à l'hôpital. Quoi. Enfin, le corps battait tout nickel. Et après, je sais pas ce que c'est.
Waouh,
génial. Et encore son charme.
C'est chiant. Ouais.
Donc, bouche à bouche, massage cardiaque,
putain, géant, ils sont trop bons, les filles. Un suicide, c'est malheureux. On le vit comme un échec, hein, mais on le vit en plus comme... On a en plus un sentiment de culpabilité parce qu'on est tellement à nous demander des explications sur beaucoup de choses, comment ça s'est déroulé, où on était, comment, etc. Qu'on finit par culpabiliser. Allez, on est parti. Allez-y, je vous en prie.
Le plus grave, les suicides, les bagarres ou les vols. Mais aussi le quotidien, comme les retards sur les colis. Autant d'événements qu'Elisabeth doit résoudre au plus vite pour éviter que les tensions ne s'enveniment entre ces hommes, enfermés parfois pour de longues années.
Il est où le sac de linge ? Quel est le problème ? Quand ?
Depuis le 16 décembre.
Il y a d'autres moyens de communication que taper comme des jobards. Yes. Yes.
Ouais.
Allez, on est parti.
J'ai arrêté là.
Alors pour les anciens, comme c'est habitué de l'univers carcéral, l'arrivée des femmes en prison a été une vraie révolution.
Au tout début, la première fois que j'ai vu une femme, c'était à la maison d'arrêt de Nice. Et je m'en souviens toute ma vie, parce que c'était une blonde, et une belle femme en plus. Et je ne suis pas resté choqué, mais je suis resté interloqué parce qu'elle m'ouvrait la porte le matin. Et je vois cette femme-là. Je dis, mais je rêve ou... Voilà, c'est... Enfin, c'est marquant, quoi. C'est quelque chose qui reste. Je crois que c'est très, très important que le métier se féminise. Parce que la femme, ben, c'est la femme et ça restera toujours la femme, c'est sûr. Hein. Ça apporte un peu de douceur, ça apporte un peu de bienveillance. Voilà. Rien que le parfum d'une femme, le parfum. Ben, c'est très important. Le matin, une femme vous ouvre la porte de votre cellule et vous sentez ce parfum. Parce qu'il y en a quelques-unes qui mettent du parfum. Et souvent du très bon parfum. Eh bien, je sais pas, ça apaise. Ça rend plus serein. Ça apporte quelque chose à la journée, disons. Voilà.
Ouais. Résous. Au revoir. Au revoir, la maison.